Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi de Juif qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Il y a beaucoup de monde qui s'est penché sur cette fameuse étoile. Alors, je ne sais pas si on peut se pencher vers, parce qu'elle est un peu haute, mais... il y a beaucoup de monde, et notamment Kepler. Alors Kepler, on en a peut-être entendu parler dans nos cours de maths. Et alors c'est marrant de voir un petit peu comme les astronomes se sont penchés sur cette étoile pour savoir si c'était juste une valeur symbolique ou si peut-être il y avait eu un phénomène quand même réel derrière cette étoile. Et alors c'est intéressant de voir qu'en 1604, Kepler, eh bien il va dire que c'est... Il va calculer qu'à cette époque, il y a eu, au moment de la naissance de Jésus, une conjonction des planètes Jupiter, Saturne et Mars. Et puis il va aussi parler d'une supernova. Vous savez, une supernova, c'est une étoile qui a explosé et qui reste très incandescente, très lumineuse pendant quelques temps. Et puis on a aussi des historiens, enfin des scientifiques chinois, qui sur des tables chronologiques ont trouvé cette inscription qui correspond au moment de la naissance de Jésus à cette époque. On trouve l'inscription suivante: une étoile était apparue et avait été vue durant un temps prolongé. Alors aujourd'hui, bien sûr, les astronomes d'aujourd'hui se repenchent là-dessus, certains, pas tous, et une thèse qui quand même semble la plus vérifiée aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, il y a eu effectivement une conjonction, c'est-à-dire de Jupiter et de Saturne, c'est-à-dire deux étoiles qui pendant un certain temps sont l'une derrière l'autre, se rencontrent, donc ça permet une plus grande luminosité. Et alors, ceci dit, beaucoup d'astronomes, à l'époque, ont vu ces étoiles, surtout qu'en plus, il y avait une attente, il y avait des prophéties qui circulaient, on en connaît quelques-unes, mais il y avait une attente d'un roi qui sortirait de Juda et qui serait le roi du monde. Suétone, Tacite, ils en parlent de ces attentes, ils les mentionnent, c'est des historiens de l'Antiquité, ils en parlent, et notamment Flavius Joseph. Il va même attribuer cette attente d'un roi qui viendrait de Juda et qui dominerait le monde, il va l'attribuer à Vespasien, qui est l'empereur de l'époque. Et donc, il va dire, voilà, c'est lui. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait une attente, il y avait une étoile, mais tout le monde ne s'est pas levé pour aller suivre cette étoile. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le dimanche matin les cloches qui sonnent, tout le monde les entend. Alors certains, ils vont se dire, voilà, c'est un reliquat de la culture chrétienne. D'autres, c'est un coup de réveil malvenu le dimanche matin qui m'empêche de faire une grasse matinée. Hein. Et puis d'autres, peut-être plus pénétrés par une certaine attente, vont dire, ah tiens, c'est l'Église. Et puis d'autres encore vont dire, ah c'est l'Église, et ils vont rentrer. Ils vont se lever, ils vont rentrer, ils vont prendre leur petit-déj et ils vont rentrer. Vous voyez, donc il ne s'agit pas seulement d'avoir une étoile, il ne s'agit pas seulement qu'il y ait une rumeur d'attente, où on dit, ben voilà, dans l'Église, oui, on parle de Dieu, ça peut peut-être nous aider aujourd'hui dans notre vie quotidienne, mais il faut d'autres choses. Et cette autre chose, certainement que nous le partageons, sinon nous n'aurions pas fait ce pas, ou ces pas qui nous séparent entre le lit et la chapelle. Et alors, que faut-il d'autre? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, ces rois mages, sans doute des astronomes, des savants, voilà, des rois d'Orient, se sont levés et sont partis à la rencontre du Seigneur? Eh bien, tout d'abord, je pense que il y a peut-être cette inquiétude intérieure, pour reprendre un terme de Benoît XVI, c'est-à-dire cette insatisfaction peut-être qu'on a tous dans notre vie. Vous voyez, on se dit, voilà, ça peut être de manière, parce qu'il y a eu des décès dans notre famille, de la souffrance, des difficultés, et on a envie de trouver une réponse. On n'est pas totalement sédentarisé. Ou alors parce que on est en quête de bonheur, en quête de, on recherche, on est en déplacement perpétuel. Quoi qu'il en soit, on peut mettre tout ça sous le nom de, je crois que pour suivre l'étoile, il faut avoir le désir. Le désir. Saint-Exupéry, dans un de ses livres, il parle des nomades qu'il oppose aussi aux sédentaires. Le sédentaire, c'est celui qui a plus de désir, qui cherche plus, il est bien installé, il pense à peu près avoir fait le tour du monde et le tour de la vie, et il a plus d'inquiétude, de recherche. Jean-Paul II va reprendre cette expression, il va parler de nomade spirituel, être en déplacement. Comme Abraham qui va se déplacer tout le temps à la recherche de Dieu. Comme Socrate aussi. Les rois mages, ils s'inscrivent aussi à la suite de Socrate, qui, non content des quelques pseudo-vérités balancées par la religion officielle de son époque, cherche la vérité. Il cherche la vérité, il est insatisfait. Insatisfait. Une petite histoire va nous permettre de comprendre ce que c'est un petit peu ce qu'ont vécu les rois mages et ce qui finalement doit nous habiter et nous pousser continuellement, nous chrétiens, à sortir de notre confort pour chercher le Seigneur. C'est l'histoire d'un... Je ne sais pas si je l'ai raconté ici, mais peut-être pas, en tout cas pas cette année ni l'an dernier, donc ça va. C'est l'histoire d'un jeune homme, qui vient voir un ermite. Alors il aimerait bien avoir une petite parole de réconfort, sympathique. Alors il vient frapper à la porte de... Non, il n'y a pas de porte, c'est une grotte. Donc il vient frapper au rocher de la grotte. Et puis il s'approche de l'ermite, qui répond pas, et puis lui dit, voilà, Padre, ou mon père, est-ce que vous pouvez me donner une parole, une petite parole de vie, là, un petit truc qui me booste un peu, là? Et puis l'ermite, il dit rien. Oh, il est embêté, tout ça. Oh, est-ce que vous pouvez me donner une petite parole, quoi, un petit mot, une petite phrase sympa, une petite phrase du jour? L'ermite, il répond pas. Il est embêté. Alors, de plus en plus belle, il insiste, il commence à pousser un peu l'ermite. L'ermite se lève, il lui fait signe de descendre, hop, il descend de la montagne, et puis il y a un petit étang. L'ermite enlève sa peau de chameau, sa peau de yak, ou je sais pas trop quoi. Hop, il descend dans la mare, il commence à aller au milieu, et puis il lui fait signe de suivre. Alors le gars, il va dans l'eau, il le suit, et puis une fois qu'il est au milieu, l'ermite le prend, il le coule. Alors il lève la tête, il en peut plus. Hop, il le coule. Et il revient à la plage. Et alors, le gars arrive, lui dit, mais ça va pas, non? Enfin, moi, je viens vous voir pour avoir une petite parole de vie et tout, et puis vous, vous me coulez. Et puis, alors, l'ermite se retourne et lui dit, mais en fait, au milieu de la mare, là, vous aviez besoin de quoi, là? C'était quoi votre souci? Ah, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer. Ah, ben, c'est bien. Ben, le jour où vous aurez autant besoin du Seigneur que vous avez besoin d'air, eh bien, je commencerai à vous parler. Eh bien, oui, peut-être que pour recevoir le Seigneur, il suffit d'être assoiffé ou asphyxié. Vous voyez, comme quelqu'un qui... ou affamé. Avoir un désir très fort du Seigneur. Et c'est certainement ce qui a habité ces... Pourquoi eux se sont levés? Pourquoi tous les autres astronomes de l'époque, tous les autres mages, tous les autres savants, qui avaient certainement vu ces constellations, se sont pas levés? Mais peut-être que la différence, c'est cette recherche, ce désir, cette insatisfaction, cette recherche de la vérité. On peut avoir une recherche de la vérité, être en recherche, être en mouvement, sans pour autant se dire, attends, ouais, alors, il y a plusieurs, il y a plus, je me pose des questions dans ma vie, mais bon, alors effectivement, il y a l'étoile, mais là, ça fait quand même quelques kilomètres à parcourir. Sinon, il y a un voyant qui est à 15 mètres de chez moi, je vais peut-être aller le voir, c'est plus simple. Pourquoi je vais aller suivre cette étoile? Il faut traverser le désert. Je ne sais pas où elle va me mener. Peut-être en Palestine, sans doute. Bon. Il y a des voies qui sont quand même plus ou moins simples. Il ne faut pas se le cacher. L'étoile, c'est pas le parcours le plus facile. C'est l'évangile. C'est pas le parcours le plus simple. Que faut-il donc, en plus du désir, pour dire Seigneur, c'est toi que je vais suivre, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui vas me donner une réponse à ma souffrance, c'est toi qui vas me donner une réponse à cette soif du bonheur que j'ai dans mon cœur. Eh bien, je crois qu'il faut aussi, tout simplement, un cadeau du Seigneur. Et ce cadeau du Seigneur, qui n'est rien d'autre qu'une certitude que c'est lui qui va nous éclairer, et que le chemin est long, hein, il faut traverser des déserts. Le voyant ou la voyante qui est à 15 mètres de chez moi, c'est plus rapide. Peut-être que ça n'aboutira pas, hein, je n'aurai pas forcément des réponses, même très certainement. Hein, mais voilà, qu'est-ce qui va faire que je vais suivre le Seigneur avec cette certitude? Eh bien, c'est un cadeau qui porte tout simplement le nom de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est un cadeau que nous fait le Seigneur, une ferme certitude mystérieuse. Parce que ce n'est pas la certitude des mathématiciens au sens où je vérifie. Ah, c'est une certitude profonde, plus profonde, la certitude de la foi, que c'est le Seigneur qui éclaire ma vie. Vous voyez, et le pape Benoît XVI a écrit une encyclique qui s'appelle « Sauvé dans l'espérance ». Et au dos de cette encyclique, il y a un petit résumé qui vous raconte de quoi parle le livre. Je vous lis un tout petit passage. Le présent de notre vie, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme. Si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. C'est ça l'espérance. L'étoile, ça a peut-être été l'impulsion extérieure, l'impulsion intérieure, le coup de départ, quoi. Allez, levez-vous, partez. Mais l'étoile, c'est pas suffisant. Le désir des savants de chercher la vérité, c'est pas suffisant non plus pour se lever et pour suivre l'évangile, pour suivre l'étoile. Il faut cette espérance. Et cette espérance, elle nous est donnée. C'est-à-dire cette certitude que le terme du chemin est grand et qu'il peut justifier tous les efforts du chemin. Alors, dans cette Eucharistie, à l'exemple des rois mages, à la suite d'Abraham, qui était quand même notre père dans la foi, eh bien demandons cette grâce de l'espérance pour ceux d'entre nous qui sont dans la difficulté. On ne connaît pas la vie de chacun. Il y en a parmi nous qui sont dans l'épreuve. Puis ceux qui sont dans la joie, chacun cette grâce de l'espérance, cette grâce, cette certitude intérieure que si je suis le Christ, c'est là que se trouve la vérité, et c'est là que se trouve, c'est lui la vérité, c'est une personne. Et c'est là que je vais trouver la lumière pour ma vie. Amen.